Jupiter, c'est encore meilleur en direct, du lundi au vendredi à 17h sur France Inter.
Salut les garçons.
Salut Charline.
Vous écoutez déjà l'émission de vendredi, c'est bien.
Ouais, juste on est ennuyé parce que c'était qui l'invité en fait?
Bah, c'était Yann Arthus Bertrand.
Ah bah t'es sûr parce que
vous êtes, je vous laisse nous le dire, vous êtes
Nicolas Hulot.
Bah non, ouais, c'était pas Yann Arthus Bertrand en fait.
Mais si c'était lui, c'était Yann Arthus Bertrand.
Mais t'es sûr?
Mais oui, il est venu pour un livre de caricature sur l'environnement.
Mais ça m'étonnerait parce que l'invité, il était pas dans un mood très positif.
J'ai plus envie de rire là-dessus, c'est drôle, j'ai juste envie de triste.
Bah c'est Nicolas Hulot, c'est lui.
Mais non.
Mais comment on peut savoir?
Mais Hulot, il a des éléments de langage qui pas tout le temps, là, c'est pas la même chose.
Comme celui-là, par exemple.
Je crois qu'il faut pas laisser aux ONG et aux politiques le soin de se battre pour l'environnement. C'est à toi, à moi, de le faire immédiatement, tout de suite.
C'est un élément de langage.
Bah oui.
Bah non, c'est surtout un cri, ça.
Oui, alors, si c'est répété plusieurs fois, ça devient un élément de langage, ok.
Bah non, enfin, oui,
bah,
là,
oui,
mais...
Voilà.
C'est ça qui nous sauve, c'est d'agir.
Non, mais je crois qu'il faut pas laisser aux ONG et aux politiques le soin de défendre l'environnement. C'est à moi de le faire et toi qui m'écoutes.
Voilà, il l'a redit.
Oui, mais c'est un gros cri, mais il est comme ça, Yann Arthus Bertrand.
Oui, enfin, si seulement, c'est lui.
Et oui, parce que c'est peut-être Nicolas Hulot.
C'est Nicolas Hulot.
Mais c'est lui, parce que je vous dis que je l'ai vu.
Oh, excuse-moi quand même, mais la première question que tu lui as posée, c'est ça.
Monsieur le ministre, bonjour. Alors, est-ce que vous mettez vraiment la main aux fesses?
Alors.
Mais c'était pour rire.
Ah, ça a bien dû le faire rire, Nicolas Hulot.
Mais c'était Yann Arthus Bertrand.
Revenir. Mais qu'importe. Aujourd'hui, tu vas faire attention, c'est Michel Vinavet.
Je sais bien, c'est le grand dramaturge français.
Voilà.
Moi, je serais très gentil avec lui. Je dirais bonjour, monsieur Florent Zeller, on est ravis de vous recevoir.
Mais non, mais putain, mais elle comprend rien.
Vous avez pas d'humour. Bonjour la France Inter et bienvenue dans la start-up publique. Voici les trois informations qui vont jouer les go-between entre la blague et l'actualité. Les jeunes Américains prennent leur destin en main au cours d'une manifestation contre les armes à feu ce week-end. Ils ont brillé à la tribune et galvanisé le monde entier.
On passe dehors pour une séance carabine à bisous.
Je vais vous exprimer toute votre envie d'aller vers l'autre pour un monde meilleur.
L'entreprise est-elle le modèle absolu d'organisation et de gestion dans notre société? Même le sommet de l'État, qui emploie des méthodes managériales, semble persuadé que c'est le cas.
J'ai calculé, vous nous coûtez 452 fois ce que vous nous rapportez. C'est le record de la tour.
Un scientifique américain autodidacte, persuadé que la Terre est plate, s'est propulsé à 570 mètres dans les airs grâce à sa fusée artisanale, avant de retomber un peu durement. Il est blessé au dos, mais à part ça, il va bien. Attachez vos ceintures pour ce sujet, paré au décollage.
Troposphère 5 n'est pas parti dans la bonne direction, mais l'ingénieur n'en démord pas.
Restez avec nous, car une brève en troisième sujet, c'est la consécration pour celui qui a élevé le genre au rang d'art, c'est Alex Vizorek.
Mais bonjour Charline Vanhoudacker, et aujourd'hui, en ce lundi, évidemment, j'ai une belle équipe et il y a un petit lien avec l'invité dans la présentation à 17h20. S'il était un héros de la littérature russe, il serait Taras Bulba de Gogol, ce cosaque robuste et belliqueux, car oui, ses choix musicaux sont clairement belliqueux. C'est vous, Chewbacca, bonjour.
Pour une fois, j'aime bien votre lancement.
Ah, ça va, hein,
fait plaisir.
De quoi on va parler?
Eh ben, de Ben Harper et surtout d'un garçon qui s'appelle Charlie Musselwhite.
Très bien. À 17h30, lui, il serait chez Pasternak, le docteur Jivago français. Cet homme, poète et médecin qui part au chevet de tout un pays qui s'effondre. C'est vous, Guillaume Meurice.
Bonjour Alex, bonjour Charline, bonjour à tous. Moi, je suis allé au salon du survivalisme ce week-end. J'ai rencontré plein de gens passionnants, notamment des gens qui lancent des couteaux sur des trucs.
J'ai essayé avec ma belle-mère, mais ça plante pas bien.
C'est de l'humour de survivalisme. Voilà.
Et enfin, 17h40, celle qui est la littérature russe à elle toute seule, puisqu'un proverbe soviétique dit « Ce que l'homme sobre a dans la tête, l'homme saoul a sur la langue ». C'est vous, Juliette Arnaud, bonjour.
Bonjour.
De quoi on parle?
Alors, je me suis posé la question, à quoi rêve un gitan de nos jours?
Très bien.
Et je me tourne vers celui que nous avons nommé PDG, mais sous CDD d'une heure, hein, juste le temps de couler la boîte. Vous êtes engagé volontaire dans l'armée française en 44, puis vous entamez des études littéraires aux États-Unis et vous les achevez à la Sorbonne. Vous rencontrez Camus, avec lequel vous entretenez une correspondance et il vous aide à publier votre premier roman, L'Atome. Vous entrez comme stagiaire chez Gillette, entreprise qui vous voit ensuite devenir PDG. Pendant ce temps, vous écrivez votre première pièce intitulée Les Coréens. Ensuite viendront Par-dessus bord, une pièce de 7 heures sur le monde du travail, le système capitaliste. Vous écrivez ensuite notamment L'Ordinaire, 11 septembre 2001 et Bettencourt Boulevard. Vous êtes, je vous laisse nous l'annoncer, vous êtes... Votre nom ?
Vinever.
Ah ben voilà. Ouais,
ah, par Jupiter, Charline Van Macker, Alex Vizorek sur France Inter.
Bienvenue dans la start-up, Michel Vinaver, vous qui connaissez très bien le monde de l'entreprise. Eh bien, je vais laisser à l'une de vos groupies, Alex Vizorek,
mais oui,
le soin de mener l'interview, sachant que vous avez adapté, traduit la pièce d'Ivan Tourguenieff, Un mois à la campagne, qui se joue en ce moment au théâtre Déjazé, avec Anouk Grimbert et Michel Esco, dans une mise en scène d'Alain Françon.
Voilà, il y a une petite dizaine d'années, j'étais au cours Florent, et en deuxième année, le professeur dit, on va faire un grand auteur classique et on va faire un grand auteur contemporain. Le grand auteur classique, c'était Shakespeare. Je ne sais pas si vous connaissez ça en anglais. Et le grand auteur contemporain, c'était Michel Vinaver. Vous étiez déjà considéré par les théâtreux comme un grand auteur contemporain. Le grand public français vous connaît, je trouve, beaucoup trop mal. Notamment cette pièce Par-dessus bord qu'on avait jouée et qui déjà dénonce le capitalisme, les travers de l'entreprise que vous avez bien connu alors qu'on est en 1969. Et ici, le grand auteur qui est Michel Vinaver s'attaque à réadapter Tourguenieff. Pourquoi ce choix et pourquoi vous, qui êtes un créatif par excellence, vous choisissez de vous mettre au service d'un autre ?
Je n'ai pas cessé de me mettre au service de l'un ou de l'autre. Vous avez nommé Shakespeare. En fait, le premier spectacle que j'ai vu dans un théâtre, je me souviens que mes parents m'ont emmené... L'affiche disait « chaque SPA ». Je ne savais pas qu'il y avait une autre prononciation possible à cette époque-là. C'était Jules César. Et c'était...
C'est ça qui vous a donné goût au théâtre ?
Pardon ?
C'est ça qui vous a donné goût au théâtre ?
En tout cas, ça m'a véritablement bouleversé de voir qu'il y avait sur le plateau, un garçon qui ne cessait pas de faire comme ça.
Taper les poings.
Ouais, de taper les poings. Mais en fait, c'était les pieds. Mais c'était ma première émotion théâtrale. Bon, pourquoi adapter une pièce de Tourguenieff ? Ben parce que c'était si différent de ce que je fais d'habitude.
Justement, c'était le défi qui vous plaisait ?
Oui, c'était... la question que je me posais était, serais-je capable de faire... une version de cette pièce qui ne soit pas ennuyeuse, qui ne soit pas filandreuse, parce que cette pièce me paraissait être tout à fait dans la poisse qui me déplaît en général, qui est la psychologie. C'est-à-dire, sans arrêt, les personnages expliquent pourquoi ils ressentent tel et tel sentiment, passion, alors que pour moi, ça, c'est le travail des acteurs.
Et voilà. Donc, vous avez épuré le texte pour que les acteurs y mettent cette émotion, parce que moi, j'ai noté, je trouvais qu'il y avait tout, c'est-à-dire que la narration exceptionnelle, mais ça, je pense qu'on la doit à Tourguenieff au départ, et puis, la profondeur des personnages, mais surtout, les dialogues, il y a une pureté dans les dialogues. Ça, c'est à vous qu'on la doit, le côté hyper, hyper pur et hyper direct des dialogues.
Oui, sans doute, car ce que vous voyez est en fait... la deuxième version de mon adaptation, la première était beaucoup plus courte, beaucoup plus âpre, et elle a été refusée, unanimement par les mandataires, par ceux qui m'avaient commandé la
pièce. C'est vrai? Comme Tourguenieff, parce que la pièce de Tourguenieff au départ a été refusée par la censure. Et il a fallu que Stanislavski la monte plus tard pour qu'on lui donne ses lettres de noblesse.
Comme Arrête de pleurer Pénélope, il s'est passé la même chose avec la pièce de Juliette Arnault.
Ah
ouais, c'est fou. Tous les grands dramaturges, c'est la même chose.
On va raconter un petit peu l'histoire quand même. Moi, j'avais l'impression que c'était César et Rosalie et Jules et Jim. C'est-à-dire qu'il y a une femme et trois hommes qui l'aiment différemment. Cette femme, c'est joué par votre fille, Anouk Grimbert, et elle a son mari qui bosse, et elle a un amant avec qui elle est plutôt dans l'intellect, et puis arrive un jeune étudiant de Moscou, où c'est plutôt le physique ou l'émotion qui lui procure, qui la différencie de son milieu, qui l'attire. Est-ce que ça aussi, ça vous a plu, ce côté, justement, cette femme perdue entre trois types d'hommes?
Oui, quand vous dites un amant, c'est en fait un cavalier servant davantage qui on ne sait pas dans quelle mesure il est plus qu'un cavalier servant.
Et elle le laisse espérer, on va dire.
Oui. Et lui-même on n'est pas sûr de ce qu'est sa visée sur, par rapport à cette femme. Je crois qu'il est, il était d'une certaine façon assez soulagé de savoir que ça n'irait pas plus loin.
Dernière question, Natalia Petrovna, c'est Anouk Grimbert. Comment c'est pour un père de choisir les mots à mettre dans la bouche de sa fille ?
Tout naturellement, les mots viennent. Je n'ai pas eu à me poser la question.
Vous avez écrit comme si c'était n'importe quelle actrice.
Ah oui.
Voilà une réponse. Allez-y, c'est ce que j'ai vu de mieux en théâtre cette année. Voilà, c'est très simple.
Ah bah, merci, vous êtes venu me voir, Alex.
Ouais, donc, voilà, c'est la pièce d'après, c'est Guillaume.
Eh bien, ça se passe au Théâtre des Jazés jusqu'au 28 avril, du lundi au samedi à 20h30. C'est donc un mois à la campagne, la nouvelle traduction de la pièce d'Ivan Tourgueniev, l'adaptation par Michel Vinaver, avec donc Anouk Grimbert et Michel Esco dans une mise en scène d'Alain Françon. Michel Vinaver nous fait le plaisir d'être avec nous jusqu'à 18h.
Des zéros et des 1 pour neutraliser nos besoins sur des torrents décibels. Les mots font des étincelles.
C'est Balogi, Soleil de Volt, choisi par...
notre ami Chewbacca.
Bah tiens, il est là.
Mais bien sûr, c'est pour ça qu'on va dire que c'était un excellent choix de Chewbacca. Guillaume Meurice, c'est là aussi,
oui, c'est
ainsi que Juliette Tardon et notre invité...
Michel Vinaver est avec nous jusqu'à 18h. Et puis comme vous aimez, vous êtes un passionné d'actualité. Je sais que vous découpez les articles, vous les gardez dans des classeurs
tout.
Que vous rangez dans votre cave. Vous êtes incollable. On va se refaire une petite leçon d'actualité et de comique avec Michel Vinaver.
À quelle heure s'en va le train ?
Le journal de presque 17h17.
Ah, 17h17. Un moment de 5h15.
Et on commence par les titres.
Le déficit public français est passé sous la barre des 3% pour la première fois depuis 2007 et forcément, le gouvernement s'en félicite.
Oui, comme un conseiller bancaire qui féliciterait son client de ne plus être à découvert en oubliant que c'est parce que ça fait 3 mois qu'il ne mange plus que des pâtes.
Stormy Daniels, oui. La star du porno, d'y avoir été menacée pour taire sa liaison avec Donald Trump.
Oui, pourtant quand t'as couché avec Trump, la dernière chose que tu dois avoir envie, c'est que ça se sache.
Et il y aura toujours des brèves.
Oui, parce que les brèves, c'est la vie, hein.
Ah bon?
Si, c'est dans Tchekhov. Il le dit. Ça passe inaperçu, mais. Et commençons par les suites des attentats de l'aube.
Oui, car Laurent Wauquiez a dénoncé la coupable naïveté d'Emmanuel Macron.
Ah oui, y a pas, oui, parler de naïveté quand on se fait avoir comme un bleu par des étudiants qui enregistrent sur leur smartphone, c'est quand même cocasse.
Alors venons-en à cette bonne nouvelle, oui. Le déficit public français est passé sous la barre des 3% pour la première fois depuis 2007.
Oui, donc aujourd'hui on peut faire 50 km pour trouver un bureau de poste ouvert, et pour y aller on peut y aller avec des trains, mais parfois la ligne a été supprimée.
Oui, enfin Alex, le déficit public français est passé sous la barre des 3% pour la première fois depuis 2007.
Oui, on peut aussi passer toute la nuit sur un brancard dans un couloir des urgences, alors qu'on pisse du sang.
Mais le déficit public français est quand même passé sous la barre des 3%.
Oui, on va bientôt avoir des émissions de France Inter subventionnées par McDo, diffusées en prime time sur France 4.
Mais le déficit public sous la barre des 3%, quoi.
Oui, mais il s'en fout, Bruno Le Maire, parce qu'il ne parle pas à la poste et le médecin qui vient chez lui, et puis il n'écoute pas France Inter. Mais
déficit sous 3%.
Voilà, et on est content.
Voilà. Paris, à présent, Ségolène Royal n'exclurait pas de briguer la mairie de Paris si Anne Hidalgo renonçait à se présenter.
Oui, je ne sais pas si l'hypothèse est plausible, mais je connais des automobilistes parisiens qui échangeraient volontiers et en envoyant Anne Hidalgo au pôle Nord.
International.
Oui, aux États-Unis, l'actrice donc porno Stormy Daniels a dévoilé quelques facettes de son histoire avec Trump.
Stormy Daniels donne des détails sur la relation qu'elle dit avoir eue avec Donald Trump en 2006, notamment qu'elle n'était pas du tout attirée par lui. Ou qu'elle lui a donné une fessée avec un magazine dont il faisait la couverture.
Il s'est retourné et a baissé un peu son pantalon. Il portait des sous-vêtements et je lui ai juste donné quelques coups.
Au moins, c'est rock'n'roll. On n'imagine pas Pénélope Fillon donner des coups de canard enchaînés sur les fesses de son petit fifi.
États-Unis toujours. Oui. La police prend son téléphone pour une arme et abat de 20 coups de feu un jeune homme.
Oui, contrairement à la victime, visiblement, la police n'avait aucun mobile.
People.
Oui, oui.
Pour l'ex-manager de Johnny Hallyday, Sébastien Farran, Laetitia n'est pas la sorcière qu'on décrit.
Alors, c'est pas une sorcière, par contre, elle doit bien avoir des pouvoirs magiques, puisqu'elle a fait disparaître l'héritage de David et Laura.
Transport, le trafic a été très perturbé en Gare du Nord ce matin, après la panne d'un TER.
Oui, parce que le seul trafic qui n'est jamais vraiment perturbé, Gare du Nord, c'est celui du shit.
Alors, de brève.
De brève, dans le Nord, à Neu-les-Mines, deux points, ivre, virgule, ils se trompent de maison et dorment chez la voisine. Alors, le fait qu'elle ne les ait pas entendus rentrer, c'est que la voisine, elle en tenait sans doute une bien bonne aussi.
Et la dernière.
Oui, en Nord et Loire, deux points, les gendarmes négocient des heures avec un forcené retranché alors qu'il n'était pas chez lui. Si ça se trouve, il était bourré et il dormait lui aussi chez la voisine.
C'est le genre d'info que vous aimez bien aussi, ça, Michel Minaver, non?
Enfin, un fan de bref.
Oui, mais voilà, je le savais. Voici le premier sujet qu'on voulait aborder avec vous. Au milieu de ce sombre week-end, une lueur d'espoir est venue et contre toute attente, elle est venue des États-Unis et de cette jeunesse américaine qui a défilé en masse à Washington contre les armes. De jeunes, parfois très jeunes adolescents, ont discouru à la tribune avec une maestria qui nous a laissé tous baba. Une génération se lève contre la NRA.
Plus la mort d'un homme sur la conscience est pesant. Et puis si t'as les couilles de tirer, va tirer sur des fourgons blindés. Prends de l'oseille au lieu de jouer avec la vie de famille entière. Fatigué d'aller fleurir les tombes de nos frères tombés sous des rafales de balles.
NTM, pose ton gun. Michel Vinaver, vous qui avez vécu aux États-Unis, que vous inspire cette jeunesse aujourd'hui? Beaucoup de victimes de Parkland en Floride qui se sont exprimées aussi à la tribune devant des centaines de milliers de manifestants et devant des médias du monde entier. Il y avait notamment une jeune fille de 11 ans qui était stupéfiante, comme tous les autres d'ailleurs. Qu'est-ce que cela vous inspire, Michel?
Ça m'a rappelé ce qui avait m'avait passionné au moment où ma première pièce a été montée, les Coréens, et notamment le fait que j'étais tombé sur cette information comme quoi, aux États-Unis, le grand problème était à ce moment-là que la moitié des soldats font usage de leurs armes et la moitié, tout simplement, refuse de tirer. Ça a été un gros problème politique et social aux États-Unis, le refus des armes.
Et vous qui connaissez bien ces États-Unis-là, comment vous expliquez votre pièce? Elle date de 56, on est 60 ans plus tard et ils en sont toujours à se poser cette question des armes.
Mais alors quel revirement? Quel revirement dans la mesure où, à l'époque, il fallait prendre des mesures absolument exceptionnelles pour convaincre les soldats que le fusil qu'on leur mettait, dont on les équipait, était fait pour tirer. Et là, il y a eu toute une série de remèdes qui ont été mis en place par l'armée pour amener un peu d'agressivité parmi les jeunes. Bon, alors aujourd'hui, on est à l'autre bout de cette chaîne, et on se dit que les États-Unis, c'est vraiment le pays des extrêmes.
Et vous l'aimez, ces États-Unis-là, vous qui y avez vécu, vous avez encore de la tendresse?
Oui, j'aime ce pays. Oui. J'aime ce pays avec ses extrêmes, avec ses excès, avec aussi une capacité de sauter d'un bord à un autre. On le voit par exemple dans la diplomatie actuellement, mais de sauter de l'agressivité à une sorte de charme, de gentillesse, et presque dans le même soupir.
Michel Vinaver, dans le fait d'adapter Tourguenieff qui est russe, est-ce qu'on peut y voir une ingérence de votre part dans la politique américaine?
En tout cas, je suis un peu l'enfant de trois pays. J'ai l'Amérique dans le sang, on peut dire, comme j'ai la France et comme j'ai la Russie.
Mm-hmm. Vos parents sont russes? Vous quittez
Mes
la France en
1941? Mes parents étaient nés en Russie, oui. Ils se sont connus en France comme tout jeune émigré. Et moi-même, je n'ai pas appris le russe autrement qu'en les écoutant parler entre eux deux. Mais il y a quand même quelque chose qui doit quand même bouillir à l'intérieur.
Michel Vinaver, le grand dramaturge, est en notre compagnie. Et donc, je rappelle que cette nouvelle traduction de la pièce d'Ivan Tourguenieff, Un mois à la campagne, avec Anouk Grimbert et Michel Esco dans la mise en scène d'Alain Françon, c'est au théâtre Déjazé pour ceux qui ont la chance de venir à Paris.
On dit qu'il restait quelques places. Ah, donc, oui. Dépêchez.
C'est chaudement recommandé par Alex Vizorek qui a adoré, qui est dans le top 1 de ce qu'il a vu cette année. Michel Vinaver avec nous et également Djouba pour nous parler de musique et un peu des États-Unis, si je ne m'abuse.
Oui, encore des États-Unis. C'est un anniversaire un peu aujourd'hui. Il y a juste 60 ans et des poussières, donc c'est le temps d'une vie quand même. Hein. Le 26 mars 1956, après 3 jours de spectacle de rock'n'roll organisé par le disque jockey Alan Freed dans un théâtre de Hartford dans le Connecticut, la police arrête 11 adolescents, annule l'autorisation d'exploitation. Et ce qui amène un psychiatre, puisqu'il y avait une ligue qui disait oui, ce concert peut avoir lieu ou ne pas avoir lieu, à émettre un avis. Le rock'n'roll est une maladie contagieuse causant l'insécurité des jeunes des adolescents et incitant les plus vieux à faire des gestes bizarres. C'est une musique tribale relevant du cannibalisme. La vraie raison, en fait, qui a poussé les autorités américaines à arrêter tout ce beau monde était qu'en réalité, on retrouvait sur un même plateau, pendant un concert, des artistes noirs et blancs. Les droits civiques n'étaient pas encore passés par là et la jeunesse d'en bas communiait autour d'une musique qui allait changer radicalement la société américaine. Et les politiciens savaient tout cela et allaient remettre en cause leur façon de gouverner le monde. Un des points communs des artistes présents sur cette scène, mis à part le rock'n'roll, était le blues. Alors même si l'industrie américaine voulait ranger le blues d'un point de vue racial, dans le sud des USA, pas mal de blancs-becs allaient traîner leur guette dans les bars de blues et portaient déjà au nu les stars de l'époque, hein, comme Muddy Waters ou Wind Wolf. Et parmi eux, il y avait un adolescent du nom de Charlie Musselwhite. Aujourd'hui, c'est un vieux monsieur qui vient d'enregistrer un album avec Ben Harper, qui sortira à la fin de la semaine et qui s'appelle No Mercy in This Land. Et Charlie Musselwhite est comme Elvis Presley ou Johnny Cash, en fait, un de ces gamins blancs et pauvres du sud des USA qui vont, dès qu'ils le peuvent, écouter des bluesmen devant la porte des tripots. Si la ségrégation les empêche de rentrer, ils se mettent devant la porte et puis ils écoutent, ils apprennent, ils enregistrent, ils se nourrissent, en fait, de ça. Et le point commun entre tous ces bluesmen et pionniers du rock'n'roll, ben, c'est la pauvreté. parce qu'en fait, il partage cette couche sociale avec les Noirs américains. Et Musselwhite a commencé, lui aussi, à travailler à 12 ans dans les champs de coton, les chantiers de construction, et puis il vend un peu d'alcool frelaté, comme ça, le vendredi, pour faire la fête à la sauvette, quoi. Et c'est un pauvre parmi les pauvres, et un blanc parmi les afro-américains. Et c'est à cette période, en fait, qu'il rencontre un grand, grand harmoniciste qui s'appelle Will Sade, qui va lui apprendre à faire pleurer un dilemme, un harmonica. Et à 18 piges, il y a une vente d'alcool qui tourne mal, et il est obligé d'aller à Chicago. Il se retrouve à Chicago, et il joue au marché aux puces. Et là, tous les bluesmen qui sont à Chicago, les bluesmen afro-américains, vont le prendre sous leur aile, leur apprendre ce métier, lui apprendre ce métier et lui montrer la voie à prendre pour exister. Et dans les 60s, il devient vraiment un des plus grands harmonicistes de blues, mais il n'oubliera jamais à qui il doit d'être sur scène et de vivre cette vie. Johnny Hooker, on est au début des années 2000, il le présente à Ben Harper. Et Ben Harper lui dit, ben, allons jouer ensemble, ils enregistrent, font une tournée, le temps passe, leur amitié grandit, et puis la picole et la maladie chez Musselwhite aurait fait qu'il nous aurait quittés déjà 10 fois, mais bon, il a un petit ange comme ça au-dessus de la tête, quoi. Et autant si leur parcours personnel les sépare, puisque Ben Harper vient d'un milieu assez bourgeois, d'une banlieue assez bourgeoise, de l'Est de Los Angeles, ils ont en commun, en fait, d'avoir... l'amour de cette musique. Et Musselwhite a l'âge d'être son père. Et lui, il a grandi dans un sud raciste. Le lien qui les unit est bel et bien le blues. Et à les écouter, on oublie tout. La différence d'âge, le parcours. Et on peut dire que le jour où Johnny Hooker les a présentés, ben, c'était vraiment extrêmement génial. Et que tout le monde, pour une fois, dans le blues, s'est levé du bon pied.
Charlie Musselwhite est donc son ange gardien qui le maintient en vie. Et Ben Harper. Merci Djoubaka, Moving On.
Moving On, ouais, c'est ce qu'on écoutait.
Et il y a un album.
Ah ben, il y a un album qui arrive vendredi. Hein.
Oh, dites donc, ouais. En plein dans l'actu.
Dans cette,
merci, Djoubaka. Notre invité, c'est la fine lame de la dramaturgie. C'est Michel Vinavert.
Il y a un jeu de mots Gillette.
Eh oui, bien sûr.
Bien sûr, je me disais aussi une maligne.
PDG de Gillette et grand dramaturge. Michel Vinavert, vous avez emmené avec vous des livres. Qu'est-ce que vous avez emmené, tiens?
J'ai emmené deux livres.
On voit un Marc
Lévy. Et un programme. Le livre, c'est la biographie de Tourguenieff, qui vient de sortir hier ou avant-hier. C'est une très belle vie et une très belle histoire de vie.
De Russie.
Donc
aussi.
Je la recommande, par Boris Zaitsev, édité par Imka Press.
C'est noté. Et puis ce second ouvrage que vous avez entre les mains.
Ce second ouvrage,
plus daté,
s'appelle L'exécution du soldat slovique. Et cet ouvrage, je l'avais découvert au moment où j'écrivais Les Coréens. C'est l'histoire du seul soldat américain qui a été exécuté, qui a été fusillé par l'armée américaine pour avoir refusé d'utiliser une arme à feu. Et il m'a semblé que dans le programme que vous aviez proposé,
c'est en lien avec le thème.
C'est tout à fait adéquat.
Pas mal.
C'est un très beau livre. Il a été édité dans la collection que dirigeait Sartre à l'époque. Il est sorti en 40 et des poussières. Et en le refeuilletant tout à l'heure, je me dis, c'est un livre qui donne énormément à réfléchir sur les revirements qui peuvent avoir lieu sur le plan collectif, sur le plan national, entre ce qu'est la vertu d'utiliser les armes et ce qu'est la vertu de les refuser.
Michel Vinavert, voilà une chronique littéraire bien faite. Prenez-en de la graine, Juliette. Merci Michel. Et à côté de vous, il y a le trublion de l'équipe, Guillaume Meurice. Accrochez vos ceintures, Michel.
Oui. Bah, la fin du monde approche, hein, les amis. On le sait, les signes sont là. Laurent Wauquiez est en pleine forme, par exemple. C'est un signe. Il y a des attentats dans les super-rues. Booba est dans la playlist France Inter. Voilà, tout ça, c'est des signes que la fin du monde est très proche. Alors, vous faites ce que vous voulez, mais moi, j'ai pris les devants ce week-end. J'étais au salon du survivalisme. Plein de gens réunis autour d'une seule passion, survivre. Voilà, tout ce qui est ne pas mourir.
C'est
en fait.
À Paris.
C'était à Paris, oui. C'est comme un chouette projet de ne pas mourir. Mais pour ça, il faut évidemment se mettre dans des situations de mourir. Sinon, ça n'a aucun sens, on est d'accord. Si vous restez sur votre canapé, ça marche pas. Sauf peut-être si vous regardez les émissions d'Ardisson. C'est vrai qu'il faut du courage pour faire face comme ça au vide. Hein, c'est pour ça qu'Alex est malin, il est dedans. Comme s'il n'est pas devant, hein, le gars est malin, aucun risque.
Salaud.
Mais moi, je parle par exemple d'anciens militaires que j'ai rencontrés qui proposent des stages commando. Alors, ces militaires s'appellent les loups de guerre. Ah, évidemment, il fallait un nom qui fasse un petit peu flipper. Ouais. Les chihuahuas de la sieste, ça marche pas. Le principe, c'est donc de survivre et les loups de guerre, ils proposent des parcours.
Moitié parcours du combattant, moitié piste du risque qu'on fait faire quand on fait des stages de cohésion d'entreprise.
Ah oui.
On met les gens en concurrence, on essaye de voir s'il y a des chefs naturels qui vont se dégager, etc. Et
donc il peut y avoir des cadres de la BNP qui rentrent dans la boue, par exemple.
Bien sûr, exactement.
Ah bah ça serait peut-être pas mal d'en organiser à France Inter quand même des stages commando, parce que moi pour voir Bernard Guetta ramper dans la boue, je veux bien mettre un petit billet. Hein, Dominique Seau-Entreilly, ça vous dit ou pas? Allez, j'allonge la thune. Alors puisqu'on parle radio d'ailleurs, parlons des ondes, parce que ça c'est un danger aussi pour l'humanité. Hein, on va peut-être tous finir comme un bol de soupe dans un micro-ondes. Mais moi j'ai trouvé un vendeur d'orgonite. Alors les orgonites, ce sont des petits bouts de métaux dans de la résine et ça peut vous sauver.
Les orgonites, c'est la magie de l'orgonite. Mais la magie, on peut l'entendre aussi, l'âme agit. Donc il y a dans les orgonites un lien entre le corps et l'esprit. On est dans de l'alchimie.
On est plus dans l'alchimie que dans quelque chose qui est testé scientifiquement, un peu à la méthode traditionnelle, on va dire.
Oui, parce qu'on est dans la physique et la métaphysique. On est dans ce qui se voit et ce qui ne se voit pas.
Ouais, là, je vois pas. Par exemple, là, je vois pas du tout. Enfin, je vois que ça coûte 40 balles. Ça, j'ai vu, ça peut éventuellement réussir à faire survivre le banquier de ce monsieur. Mais je vois pas pourquoi 4 bouts de métal enfermés dans de la résine pourraient m'aider à survivre ou à guérir. Alors, j'ai cherché à en savoir plus.
Si on modifie l'information de nos propres cellules, la maladie, c'est tout simplement un dérèglement d'une information dans une cellule. Donc si on transmute l'information et non pas si on transforme l'information, à ce moment-là, on peut améliorer la maladie.
D'accord.
Le mal a dit. Qu'est-ce qu'il dit? Oh là là. On est dans de l'alchimie et le langage des oiseaux.
Ah bah oui, d'accord. Ah bah oui, mais c'est parce que j'ai fait espagnol, moi, en deuxième langue. J'ai pas fait mes anges ou hirondelles, alors je suis désolé. Mais il en a vendu plein, hein. Il y a certainement des gens qui sont bilingues, français, pigeons. Alors, il y a quand même un objet qui rassemble la personne qui veut survivre en règle générale, c'est le couteau. Alors ça, des couteaux, il y en avait plein. L'expression « avec ma bite et mon couteau » n'est d'ailleurs pas galvaudée. Essentiellement des mecs, hein, avec mon clitoris et ma fourchette. C'était pas l'ambiance du tout au salon. Donc essentiellement des mecs qui en vendent aussi des couteaux, n'est-ce pas monsieur?
Oui, des couteaux avec un esprit outil vraiment dans l'usage. Si on peut faire beau en plus, c'est bien.
Bon, ça fait un peu peur comme ça tous ces couteaux. Est-ce que vous pouvez nous rassurer un peu?
Je sais pas si je vais vous rassurer, mais l'objet en lui-même n'est pas dangereux.
Ah non, ça me rassure pas des masses.
Une voiture toute seule n'est pas dangereuse.
Oui, c'est vrai, sauf quand il y a un gros con au volant. Alors à l'inverse, il y a très peu d'égorgements à la Fiat Punto. Ah, ça n'existe pas. Ils s'en servent plutôt pour foncer dans la foule, mais quand l'ingénieur crée la Fiat Punto, il se dit pas comment je vais rendre le pare-choc encore plus tranchant. C'est rare, même Jawad. Ainsi, il a été ingénieur, il n'aurait pas dit, ben moi, je fais ce qu'on m'a dit, moi, monsieur. Moi, j'ai créé un pare-choc tranchant parce qu'on me l'a dit, je ne savais pas, moi, monsieur. Alors que le couteau, c'est autre chose, c'est une passion, à tel point qu'il y a la Fédération française de lancer de couteaux et de haches. Et ça, c'est beau.
Ça fait 28 ans que je fais du couteau et dans mon coin, je fais beaucoup de lancers aussi.
Où est-ce que vous lancez des couteaux?
Chez moi, dans mon atelier, dans ma cour, pour me faire plaisir, des haches, des couteaux, des clous de charpentier, enfin tout ce qui a une pointe et qui se lance.
Vous lancez des clous de charpentier?
Oui.
D'où vous êtes venu cette passion de lancer des trucs pointus?
Bah, fabriquant des trucs pointus, on cherche à l'utiliser de diverses façons.
Il y a plein de gens qui fabriquent des trucs pointus et qui ne lancent pas des trucs pointus.
Eh ben, ils devraient.
Non, je te jure, il n'y a pas d'urgence à ce niveau-là. Si vous pouvez continuer à laisser vos trucs pointus tranquillement posés sur la table, ça arrangerait tout le monde. Même le regard pointu d'Éric Zemmour sur l'actualité, il n'est pas obligé de le lancer partout. Alors pourquoi ces gens lancent des haches et des couteaux?
Pour le plaisir, comme tout le monde, c'est toujours agréable, c'est un peu fun.
Enfin, comme tout le monde.
Comme tout le monde dans le milieu du couteau, on va dire.
Voilà, oui. Enfin, sauf les gens qui sont dans le milieu du couteau à beurre.
Ouais. Il y en a quelques-uns, mais je pense que vous n'en trouverez pas sur ce salon.
Non, il n'y en avait pas. Essentiellement du couteau pointu. Enfin, les mecs vont être bien emmerdés s'ils crèvent de faim dans la forêt et qu'ils tombent sur une motte de beurre. Ah, bah là, effectivement, il fallait un couteau à bourron. Mais j'ai vu personne, c'est vrai, avec des t-shirts I love tartine. Mais j'ai vu des gens avec des habits sympas. Monsieur, qu'est-ce qu'il valait faire là?
Bah, moi, c'est un peu plus tout ce qui est autonomie. Ouais. Tout ce qui est, ça va être autonomie alimentaire, autonomie énergétique, un peu tout ce qui est.
Parce que vous avez quand même un sweatshirt avec marqué Freedom, mais avec une arme dessus et une hache qui pend de votre sac.
Ouais, bon, bah, se dire un peu comme un combattant de la liberté, hein.
Ah, bah voilà, d'accord. Oh, bah, ça va alors. J'espère qu'il dit ça au vigile quand il se fait fouiller à l'entrée des supermarchés. Monsieur, vous avez une hache dans votre sac? Non, mais je suis combattant de la liberté. Ah, pardon, excusez-moi. Allez, bienvenue, les surgelés, c'est à gauche. Bonne chance donc à tous ceux dont la survie est mise en cause aujourd'hui. Hein. Si vous êtes par exemple un neurone dans la tête d'Éric Ciotti, une bouteille de Chablis dans le frigo de Juliette Arnault ou un chômeur sous le règne d'Emmanuel Macron.
Merci Guillaume Meurice. Michel Vinavert est en notre compagnie, le dramaturge. Et voici ce deuxième sujet qu'on a choisi pour vous. L'entreprise serait devenue le modèle dominant d'organisation jusqu'au sommet de l'État. Emmanuel Macron est le PDG de la France, appliquant aux membres du gouvernement et aux députés des méthodes inspirées du management. Emmanuel, c'est le PDG de l'année, écoutez.
Tout le monde dit que je suis un patron exceptionnel. Ils sont tous là, on n'a jamais bossé dans une ambiance pareille. Hein. T'es tellement sympa, tellement drôle. T'arrives à tirer le meilleur de nous-mêmes. Mais qu'est-ce que vous voulez répondre à ça? Non mais, je veux dire, that's life. Et c'est pas à moi de le dire. Hein. Mais si c'est vrai, je dis, tant mieux. Hein. Tant mieux pour eux.
C'est François Berléand dans Le Bureau, l'adaptation française de la série The Office produite par Canal. Juliette Arnaud, vous l'aviez reconnue?
Oui, j'étais contente.
Oui, bien sûr. Michel Vinavert, vous qui avez longtemps travaillé en entreprise, dirigé, qui écrivait beaucoup avec cette matière, est-ce que vous retrouvez aujourd'hui dans l'exercice du pouvoir, tel qu'il nous est présenté aujourd'hui, des méthodes de l'entreprise, des méthodes de management?
Il est certain qu'il y a beaucoup en commun entre l'entreprise et puis le pays. Mais la différence principale, c'est que l'entreprise doit faire de l'argent. Et c'est une obligation qui est aussi une servitude. Une servitude. L'État, lui, n'a pas besoin de faire de l'argent, il a besoin d'en trouver. Il a constamment besoin d'en trouver. Et Je dirais que ça, c'est la principale différence entre les deux structures. Parce que pour le reste, l'entreprise est un être vivant, comme l'est le pays. Et les deux, des deux côtés, on a besoin de loyauté, on a besoin d'amour et de fidélité.
Vous moquiez l'entreprise dans Par-dessus bord. C'était une entreprise française qui fabrique du papier hygiénique et qui tentait de résister à la concurrence des Américains. Il y a quelque chose d'une moquerie kafkaïenne de la façon de fonctionner. Est-ce que ça vous angoisse que le politique en vienne à utiliser ces méthodes entrepreneuriales ou pas? Ou vous l'aviez anticipé?
Je ne l'avais pas anticipé, mais je suis d'avis que l'État découvre en ce moment le bien fondé d'un certain nombre de réflexes qu'on trouve dans la gestion d'une entreprise. Ça n'est pas de trop.
Des bons et des mauvais, du coup.
De bons et les mauvais, absolument.
Dans le côté positif, c'est ce que vous appelez le tissu affectif qui se tisse sur le lieu de travail. C'est le fait notamment d'avoir une cantine, des couloirs, une machine à café et un vivre ensemble. Ça, c'est le côté positif de l'entreprise.
Mais aussi, je dirais, quelque chose qui a à voir avec, avec l'amour.
J'aime l'entreprise.
Ouais.
Bah, Manuel Valls. Aussi.
Ouais. Et je sais que quand je suis entré chez Gillette, j'ai découvert que l'affect était un des ingrédients principaux du succès de l'affaire. Et que s'il n'y avait pas cet ingrédient, eh bien, on n'aurait pas la possibilité de gagner tout l'argent qu'on gagnait.
Le Gillette que vous avez connu il y a 45-50 ans, est-ce que c'est le même qu'aujourd'hui? Ou comment vous observez celui d'aujourd'hui?
Non, non. Ah. Je suis entré dans une entreprise qui était indépendante. Gillette, c'était Gillette. Aujourd'hui, Gillette fait partie de Procter & Gamble. Mmh. Et il n'y a plus rien aujourd'hui de ce qu'était la culture. Mmh. Et je dirais précisément, puisque je parle d'affect, de l'affection qui, à ce moment-là, était un peu le nerf de la guerre.
Ça se voit parce que vous n'êtes pas hyper bien rasé aujourd'hui.
J'ai cessé de me raser quand j'ai quitté l'entreprise. Et c'était une façon de signifier cette séparation.
Michel Vinavert est en notre compagnie et en ce moment, l'adaptation qu'il a réalisée de la pièce d'Ivan Tourgueniev, Un mois à la campagne, se joue au théâtre Déjazé. À côté de vous, une comédienne passionnée de littérature qui nous fait découvrir un livre. Juliette Arnaud, c'est à vous.
Oui, alors aujourd'hui, je réédite un de mes coups classiques, c'est-à-dire un de mes poneys de bataille favoris. Choisir un livre pour le titre et basta. Alors, c'est un pari extrêmement risqué, périlleux, casse-gueule, certes. Moins toutefois que de se marier ivre à Las Vegas avec un stripteaseur que t'es pas certaine de savoir son prénom, alors tu l'appelles John. Non, Alec, je ne parle pas de moi, je parle d'une amie. En l'occurrence, ce fut un pari réussi. Ma sœur est une gitane, c'est le titre du roman. C'est vraiment merci pour ce moment en bien. Alors, moment, parce que ça fait moins de 150 pages, mais on sait tous bien qu'il vaut mieux un moment pertinent qu'une éternité poussive. Ma sœur est une gitane, c'est l'histoire d'un mec, un jeune mec, issu d'une lignée de voyageurs, de gitans, qui a eu suffisamment envie d'être comédien pour intégrer l'École nationale supérieure d'art dramatique de Saint-Étienne, et qui, pendant qu'il est élève là-bas, apprend que sa petite sœur de 16 ans a pour projet immédiat, elle, d'épouser un gitan. Gitan qui va venir l'enlever dans sa piôle. Je mets des guillemets au terme enlèvement, hein, c'est une tradition gitane certes, mais la plupart du temps il n'y a pas rapt puisque la victime est totalement consentante. Maintenant, la raison de mon choix, on a toutes rêvé d'être enlevé par un gitan. Alors petite pour pouvoir vivre dans une caravane, bien sûr, et plus grande pour des raisons que la pudeur m'interdit d'énumérer ici. Mais le grand frère...
La guitare, bien sûr.
Dont la guitare, bien sûr. Mais le grand frère, l'auteur, Logan de Carvalho, n'a évidemment pas les mêmes fantasmes. Hein. Et puis c'est bien naturel, lui a œuvré pour devenir autre chose qu'un gitan dans un pays, la France, où l'ascenseur social est quand même pas mal esquinté. Il y a bien l'escalier de service, mais il n'y a pas la lumière. Il s'agit donc de s'intégrer quand on n'a pas les bonnes références culturelles, quand on a décidé de faire l'acteur pas par amour pour Samuel Beckett ou Jean Vilar, mais parce que Jim Carrey, Louis de Funès et Jean-Claude Van Damme. Et que donc, et je cite l'auteur, on veut tout faire pareil qu'eux, porter un masque vert, être tout sec et énervé en gueulant sur tout le monde ou faire le grand écart en sauvant la planète. Bref, c'est compliqué. Quand il va voir sa sœur sur le terrain pour lui dire « Non, en fait, tu peux pas faire ça, tu peux pas te marier à 16 ans », elle lui dit « Tu sais, Logan, des fois, il vaut mieux une petite vie simple qu'une grande vie compliquée ». En traçant sa route loin des gitans, l'auteur a changé et en revenant sonner cloche de sa sœur, il retrouve tout un tas de préjugés et il lui donne des leçons, ça tombe bien, ce sont les nôtres de préjugés et ne le sont moins ainsi. J'ai appris par exemple que les gitans payent un genre de loyer, je savais pas, sur un emplacement d'une aire d'accueil, que ça fait entre 60 et 120 euros par semaine. Ça c'est pour tous les gens qui disent que les loyers ils payent pas de gitans et c'est pour ça qu'ils ont des berlines de luxe. Que les gitans n'ont pas de couteau, ils ont des serpettes. Eh ben, c'est une nuance. Qu'ils ont un sens de l'invectif jouissif à base de poitrinaire de mes morts, narvalo pour dire taré ou petit besté mort, et je vous embrasse. Que ouais, certes, on n'a pas les mêmes modèles familiaux qu'eux, mais que ceux de notre milieu peuvent aussi se traduire parfois un peu vite par faire peu d'enfants, se marier tard et divorcer vite. Et que c'est pas si choupi que ça. Et que le modèle patriarcal, eh ben, c'est pas une spécialité exclusivement gens du voyage. La lecture nous fait nous brader nos idées toutes faites, ce qui est bien, et puis c'est drôle, j'ai ri, et ça c'est top. Ce livre a passé le test, me fait rire dans le métro, heure de pointe, Gare de ligne 9, post-attentat. Que c'est sympa, les familles nombreuses où tout le monde s'appelle Côme, Hermance, Hildegarde ou Enguerrand, mais que c'est encore mieux quand il y en a d'autres de familles où les mômes se nomment Brandon, Myron, Tyson, Anakin, Léonidas, Bianca, Ariel, Jasmine et Pocahontas. Merci, bisous, merci.
Juliette Arnaud, qui a édité cet ouvrage ?
Payot ! Et le jeune homme qui l'écrit s'appelle Logan de Carvalho.
Merci Juliette, et on attend donc le lancer de serpette, hein, si on suit la logique. Michel Vinavert, on va aborder ce dernier sujet avec vous assez rapidement, juste pour vous faire réagir sur un de ces aspects. Mike Hughes est scientifique autodidacte. L'Américain a construit une fusée dans son garage, il a transformé une roulotte justement en pas de tir, et le décollage a réussi, pendant 10 secondes au moins. Il a été propulsé 570 mètres au-delà du sol. Mais plus tard, il a atterri un peu rudement au même endroit que le décollage dans un désert aux États-Unis.
Il a prouvé que la Terre était dure, c'est déjà ça.
Oui, voilà, c'est ça. Et on a pensé aborder ce sujet parce que vous expliquez souvent que le comique et l'anecdotique permettent aussi l'accès à la connaissance et permet d'expliquer le réel. Est-ce que dans cette histoire folle, on peut expliquer le réel à travers ça ?
Oui, j'aime beaucoup cette histoire parce que, en fait, Le héros de ce qui a été cette aventure ne voulait pas être dupe. On lui a toujours dit que la Terre était ronde. Et il s'est dit, mais je vais quand même aller voir de plus près. Et s'il n'a pas réussi du premier coup, il y a encore de l'espoir.
S'il nous entend, voilà. Courage à lui.
Michel Vinavert, nous avons une proposition à vous faire, cette fois de acting.
Ouais, en fin d'émission, on propose à l'invité un sketch qu'il découvre. Alors moi, j'ai joué du Vinavert, je vous propose de jouer du Vizorek. C'est ma vengeance. On a constaté, Michel, dans votre biographie, que votre mémoire, c'était sur l'humour chez Kafka. Et vous avez dit à Camus que vous aviez aussi travaillé l'humour dans son œuvre à lui. Alors on s'est dit, vous étiez parfait pour une conférence sur un sujet que vous allez découvrir. Guillaume Meurice présente cette conférence. Le texte, vous l'avez. Vos répliques sont en vers. Charline et moi, nous assistons. On y va.
Bonsoir à tous, merci d'être venus à ce deuxième volet de ce cycle de conférences. Merci d'être venus si nombreux.
Bonsoir.
Vous êtes deux, bon, c'est déjà mieux que la dernière fois.
Moi, j'avais beaucoup aimé la dernière fois.
Ah, hein. C'était vous qui avez aimé, oui, d'accord.
Moi, j'avais aquaponé, alors j'ai pas pu.
Enfin, c'est rien. Alors aujourd'hui, nous allons traiter de l'humour dans l'œuvre de Michael Haneke chez les Frères Dardenne. Pardon, pourquoi vous riez ?
Oh non, pour rien, pardon.
D'accord. Et notre conférencier est spécialiste de l'humour caché.
Effectivement, je cherche l'humour où il n'est pas. J'ai travaillé sur l'œuvre de Barbara, sur les œuvres de jeunesse de Heidegger.
Oui, oui, je rappelle, picturalement, vous avez trouvé toute la gaudriole chez le Caravage.
Hein. Ah oui, c'est
vous. Voilà, vous êtes une pointure. Alors commençons par les Frères Dardenne.
Là, difficile de dire lequel est le plus drôle des deux.
Oui, alors justement, parlez-nous de la puissance comique de la vie de Rosetta, chômeuse en fin de droit dans une roulotte avec sa mère alcoolique.
Le plus rigolo, c'est qu'elle n'arrive pas à trouver du travail.
Oh, feignasse.
Ah, ça c'est vrai.
C'est chaplinesque. Elle court et bim, Pôle emploi. Elle tombe.
C'est fort. C'est fort.
Chez Haneke, c'est une autre ficelle de la déconne, hein, qu'on tire.
Indéniablement, on est là plutôt dans le comique de répétition.
Et dans Amour.
Ah oui, ça se répète dans Amour.
Oui, il la regarde et puis elle le regarde, puis il la regarde, puis elle le regarde, puis il la regarde, puis elle le regarde, puis il la regarde, puis elle le regarde.
Oui, on a compris. Oui, pas de problème.
Puis elle le regarde.
Oui.
Puis il la regarde.
Oui, la regarde. Oui, ça. Alors,
disons que Haneke ne mise pas tout sur les punchlines.
Qui sont souvent étouffés par la pluie battante sur le carreau.
Ouais, c'est tordre.
C'est vrai que c'est formidable. Il y a une belle autodérision chez Haneke qui n'est pas sans rappeler celle
de Manuel Valls.
Effectivement, voilà.
Qui lui aussi cherche du travail. Ce qui nous ramène aux Dardennes.
Eh ben voilà, la boucle est bouclée. Merci à tous. On se retrouve encore plus nombreux la semaine prochaine pour débattre du thème. Qui de Goethe ou de Kierkegaard aurait pu être le troisième chevalier du fiel?
Vous êtes un acteur brillant.
Engagé. Michel Vidaver engagé avec C'était nous dans Par Jupiter. Merci infiniment, Michel Vidaver, d'avoir partagé cette heure avec nous. On était flattés et ravis. Je rappelle que la nouvelle traduction de la pièce d'Ivan Tourguenieff que l'on vous doit, Un mois à la campagne. C'est avec Anouk Grimbert et Michel Escaut dans une mise en scène d'Alain François.
Plein d'autres, ils sont tous très bons.
Bien sûr, ils sont tous très bons. Théâtre Déjazé jusqu'au 28 avril, du lundi au samedi à 20h30. Merci beaucoup, merci à tous, à Djoubaka, Juliette, Alex et Guillaume. Voici le mot de la fin à tous ceux qui luttent contre la vente d'armes, ces armes qui tuent de Trèbes jusqu'à la Floride.
On passe dehors pour une séance carabine à bisous.
Je veux que vous exprimiez toute votre tendresse, votre envie d'aller vers l'autre, pour un monde meilleur.